Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité.
Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, des poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous avons ce soir l'immense plaisir de recevoir à ce micro Franck Bardou.
Bonsoir.
Franck, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio de Radio Occitanie. Et je dirais quand même pour nos auditeurs que nous avons souvent parlé de toi, Franck, en particulier sur l'émission Incontournable. Alors, j'espère que nous aurons l'occasion de reparler donc de ton œuvre et de tout ce que tu fais pour la littérature et la poésie occitane. Ce soir, nous allons parler essentiellement d'un recueil qui est L'arbre d'émail, L'arbre à miel. Mais avant, il faut bien entendu te situer. Donc, Franck Bardou, tu es né, je crois, en 1965, et tu es actuellement enseignant de Occitan. Et bien sûr, tu as une œuvre de poète. Tu as laissé un ouvrage qui est un ouvrage essentiel donc sur René Nelly, un élan poétique occitan. Nous aurons le plaisir d'en parler à ce micro d'une façon beaucoup plus précise dans quelques temps. Mais c'est un ouvrage qui manquait parce que c'était quand même, on était dans une situation un peu paradoxale, comme on aime bien nous, en définitive, dans le Sud. C'est-à-dire que souvent, ce sont nos plus grands poètes où on n'arrive pas trop bien à trouver d'abord les livres, ce qui était quand même extravagant. Et c'est vrai un peu ça maintenant pour Jean Malrieux, par exemple, qui est un des grands poètes de notre Sud, et pour lequel les ouvrages sont quand même maintenant difficilement trouvables.
C'est vrai.
Et Nelly, c'était le cas. Alors bon, maintenant, ce livre qui a été publié par l'Institut d'études occitanes, qui reprend bien entendu tous les commentaires savants, on dirait, sur l'œuvre considérable, hein, qui est quand même vraiment un des grands monuments.
Une immense dotation au peuple occitan, voilà. En vue de le rendre à lui-même. Ouais. C'est ainsi que je définirais cette œuvre. Ouais.
Donc, grâce à toi, on a ça. Et cela m'amène à dire à quel point la culture et la langue occitane sont un héritage important et un héritage universel.
Alors, l'occitan, il y a souvent une adhésion affective à une langue qui, compte tenu des circonstances politiques et sociales, n'est pas maternelle. Ma mère et mon père me parlaient en français. Ce sont mes grands-parents qui, entre eux, visiblement s'aimaient beaucoup, et parlaient occitan. Donc pour moi, mes adorables grands-parents, qui vivaient dans le même quartier que la maison de Radio Occitanie, quand ils se disaient des choses que je n'étais pas censé être assez grand pour comprendre, et qu'ils se les disaient tendrement et avec le sourire, se parlaient en occitan. Lorsque mon grand-père, beaucoup plus tard, se retrouve en veuf, avait bu un verre de vin, et il n'en buvait pas si souvent, c'était des repas de fête, il changeait de langue et à nouveau basculait dans l'occitan. Et un jour, je lui ai demandé naïvement, « Mais papy, Tu es émigré ? Que diable ! Je parle le patois. Et de là, une première approche de la langue qui me fera arriver à la fameuse question qu'on poserait volontiers dans un cadre franco-français à un écrivain de langue moins répandue. Mais pourquoi écrire en occitan ? Ben, on ne demande pas à un allemand pourquoi il écrit en allemand. Ou un anglais, pourquoi il écrit en anglais. Je suis occitan, donc j'écris en occitan. Ça, c'est la réponse la plus simple que je puisse proposer à entendre. Après, bien entendu, il y a une affinité élective pour ce que semble véhiculer la civilisation occitane, dont la langue est l'emblème et le signe de ralliement et de reconnaissance. Mais ça, ça vient ensuite. Là, c'est l'Occitanie d'Alain Sur Garcia, que je vénère et que j'apprécie inconditionnellement.
Alors, dans ce que tu dis, il y a une chose... moi, j'ai connu, je suis une génération un peu antérieure à la tienne, et j'ai connu ça de façon totale, hein, c'est-à-dire grands-parents, ma grand-mère parlait occitan, mais mes parents aussi, parce que bon, mes parents sont nés pendant la guerre de 14, donc ils parlaient occitan. Mais dans ce qu'il y a de terrible dans ce que tu dis, c'est que cette langue-là, qui a été considérée comme une langue vulgaire, depuis longtemps d'ailleurs, hein, l'édit de Villers-Cotterêts,
XVIe siècle,
n'a pas été transmise de façon naturelle. Et la façon naturelle de la transmission de la langue, c'est la famille. Oui. La famille, alors moi je l'ai vécu ça, c'est-à-dire que les parents, et quand je passais mes vacances dans une ferme en Ariège, mon compagnon de jeu, qui ne parlait qu'occitan, puisqu'on ne parlait qu'occitan dans sa famille, quand il venait à la maison, il fallait qu'il parle français. Voilà. Et on le récompensait.
Hein? Quel désastre.
Et on le récompensait. Voilà. Et en ayant, bien entendu, l'impression de faire une action, une très bonne action.
Puisque, en sa faveur.
Voilà, en sa faveur, puisque ça allait lui permettre une intégration plus facile après dans la vie scolaire, etc.
Et donc, les élites intellectuelles nous ont abandonnés très tôt dans l'histoire. Dès que le vent de la royauté française a tourné à leur faveur, ils se sont tournés vers la royauté française de manière tout à fait classiquement opportuniste. Et comme aujourd'hui on souhaite parler anglais pour gagner beaucoup d'argent à l'échelle internationale, à cette époque-là, on souhaitait faire de même avec le français. Et donc seuls les petites gens, les humbles gens, continuaient à utiliser véhiculairement l'occitan. Donc c'était signe d'humilité, de pauvreté et de misère. Parce que pour la plupart, les paysans étaient miséreux.
Alors, il y a eu quand même de grandes résistances, je pense à Goudouli par exemple, oui. qui a une œuvre universelle extraordinaire.
Oui.
Au XIXe siècle, il y a quand même on a Mistral, oui. Frédéric Mistral, à la fin du XIXe, hein, quand même.
Lumineux prix Nobel.
Voilà, prix Nobel en 1904. Et puis, il y a ce réveil quand même, il me semble, dans l'histoire de la littérature occitane, ce réveil, avec la création à Toulouse de l'Institut d'études occitanes, hein, avec Tsitsan Zara d'ailleurs.
Jean Cassou, René Nulli, Marc Fouquet.
Voilà, des gens qui sont quand même des gens exceptionnels. Quoi. Il y a une pléiade là. Bon. Et après, des gens comme Mancier qui vont avoir une originalité totale, une force terrible.
une insolence lumineuse là aussi.
Voilà. Bon. Et on est arrivé d'un Occitan qui était un Occitan au départ, je dirais rural, essentiellement, à maintenant, ces auteurs-là sont malgré tout des gens de ville.
Pour l'essentiel. En tout cas, ce sont des gens de lettres.
Voilà, des gens de lettres.
Oui. Mais il faut savoir qu'à peu près depuis le début de la période qu'à l'échelle européenne on est en droit de qualifier de baroque, l'Occitan littéraire est une langue insurrectionnelle. Le poète, l'écrivain, mais surtout des poètes parmi les écrivains occitans, dès le XVIe siècle, appellent à l'insurrection par la langue, même si par ailleurs, sur le plan idéologique, il semble très conservateur. Ce qu'il y a lieu de conserver dans son propos reste insurrectionnel par rapport à l'ordre dominant. Et ça, pour moi, c'est solaire, parce que ça fait partie de mon identité. Je construis mon identité dans l'insurrection, dans l'insoumission. Et c'est à l'armée que j'ai déclaré être occitan. Jusque-là, j'étais simplement nostalgique.
Alors, cette prise de conscience et cette revendication, donc, on va dire maintenant, il pourrait employer un mot qui est galvaudé totalement, mais enfin identitaire, va se traduire par
Oui.
une création littéraire.
Oui.
Hein. Donc, il y a bien entendu, il y a le fait d'aller fouiller un petit peu dans les très grands. C'est le cas de Nelly, parce qu'il faut toujours avoir des guides quand même. Personne ne fait quoi que ce soit sans guide. Ça n'existe
Totalement.
pas, ça.
Il m'a rendu à moi-même.
Voilà, voilà.
Il est un maître
Voilà,
intérieur.
voilà. Et donc, tu vas écrire donc de la poésie en occitan. Cette poésie en occitan, donc, moi, ce que j'ai lu de toi, c'est également et des poésies en bilingue.
Oui.
C'est-à-dire, alors ça, c'est un grand sujet. Par exemple, l'œuvre de Félix Gaston vient d'être maintenant reprise, hein,
Oui.
mais à mon sens, il y a une erreur dans la mesure où elle n'a pas été aussi traduite en français. Et donc on se prive là quand même d'un public important. Manciette publiée dans les deux langues. Hein.
J'ajouterai que l'œuvre de Castel n'a pas été non plus publiée en anglais ni en allemand et que
Oui.
on se prive ainsi d'un
Oui,
public
tout à
important.
fait.
Pas
Tout à
plus
fait.
avec le
Oui,
français
oui, oui.
qu'avec toute autre
Oui.
langue relativement répandue d'Europe et du monde. La traduction est une des portes de survie, d'urgence de la culture minoritaire, par exemple occitane. Nous avons besoin de montrer aux autres que nous existons et c'est par la traduction que nous pouvons le montrer. Nous y travaillons au Pen Club de Languedoc. Nous travaillons à mettre en ligne des poèmes occitans traduits en anglais, avec une petite insolence discrète qui, bien entendu, ne demande qu'à s'ouvrir, à se multiplier, à faire côtoyer des traductions en italien, en allemand et bien entendu en français. Mais tout en ayant souci de montrer que le passage obligé vers la reconnaissance n'est pas nécessairement
Nécessairement
francophone.
francophone, d'accord.
Et ceci afin de nous désaliéner d'un certain sentiment irrationnel de dépendance. Voilà. Pour autant, bien entendu, le travail que je mène en bilingue n'est pas simplement un souci de traduction. Et je tiens cette leçon de René Nelly.
Alors, si tu veux bien, Franck, donc on n'a pas parlé quand même de ton œuvre. Donc tu as publié des recueils de poésie. En quelle année tu commences à publier?
Je commence à écrire en 89 et j'ai commencé probablement à publier en 91 ou 92, je ne le sais pas par cœur. C'est la revue Gay Sabé qui m'a publié mes premiers recueils et c'est la revue Oc qui a publié mes premiers poèmes isolés. Bernard Mancier m'avait pris sous son aile,
Oui.
une aile particulièrement motivante, insolente comme je le disais, mais
Oui.
positivement insolente, c'est-à-dire qu'il me poussait à la créativité et d'une manière toujours complètement inattendu. Il avait des paroles, des mots d'encouragement qui venaient toujours où on ne les attendait pas et sous une forme totalement surprenante que je serais incapable de restituer mais qui font que les souvenirs que je conserve de cette époque de la revue Orc où on se réunissait en conseil de rédaction, il m'avait presque de suite intégré à ce conseil, avec d'un côté Félix Castan et de l'autre Bernard Mansiette, c'est des symphonies de génie qui s'échanger autour d'une table avec des points de vue sur tel ou tel illustre poète universitaire par ailleurs, me regardant d'un air bienveillant, Bardou, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cela? Il me jetait un fatras de papier devant le nez, comme si ce qu'il me montrait, c'était des prospectus reçus dans une boîte publicitaire, une boîte aux lettres remplie de publicité. Et c'était des poètes dont je tairai le nom bienveillamment, mais qui, je pense, se considèrent comme très importants. Et de ce type de critique venait ensuite la leçon discrète, jamais formelle. Ça, par exemple, il aurait pu éviter de l'écrire, sous-entendu, ne faites pas pareil. Ça, il aurait pu se taire, ça sert à rien, on va prendre les ciseaux, c'est la méthode de Mansiette. Et moi, je lui disais, surtout, quand je vous envoie des poèmes, passez-les au ciseau. Ne me laissez pas me ridiculiser, passez-les au ciseau. Et ça donnait le son, sans être formel, sans être voilà comment il faut faire. C'était voilà comment il ne faut pas faire. Et je n'en remercierai jamais assez.
Personnage d'une d'une originalité totale, hein,
ah, oui, qui une
imprévisible.
Une éruption poétique.
Oui. Imprévisible, quelquefois d'ailleurs très éruptive aussi. Hein. Ah,
très éruptive, mais ça me faisait toujours rire.
Oui, des scènes entre lui et Castaing qui sont assez mémorables. Hein.
Absolument. Hein. Aucun des deux ne s'en laissait compter.
Alors, quels sont les titres donc de tes recueils?
Le premier devait s'appeler Fil del Cerf. C'était la première partie d'un gros recueil. La première partie a été publiée. Fil del Cerf, fils du Cerf. Le Cerf étant le vent qui souffle de Toulouse à Narbonne. Il traverse ainsi ma terre de mes racines. Donc il me guide vers la Méditerranée qui est le berceau de mon écriture. Ça me dit déjà assez long.
Comme Nelly, hein.
Voilà, le second recueil qui a été publié s'appelait Cant del Cerf, chant du Cerf. J'étais toujours dans la même veine. C'est une période où j'écrivais des poèmes rythmés, avec rimes intérieures et extérieures, tantôt en prenant l'école du sonnet, écrit en Italie et en langue occitane, tantôt en prenant la leçon des troubadours, sur le plan formel, j'entends. Et j'ai continué à écrire des dizaines de recueils, assez longtemps après. On a publié ensuite à l'Institut d'études occitanes la Crido, l'IEO, autant que Gaï Sabé, publiant monolingue occitan, mais ses poèmes existants en deux langues, pour les mêmes raisons que celles que je citais tout à l'heure. La Crido a été le premier recueil de poèmes non rimés, mais toujours rythmés, le son de Nelly. Et depuis, eh bien, j'ai à peu près publié 5% des recueils que j'ai pu produire. Je ne suis pas certain que tout soit bon. Autant Castaing déclarait avoir du mal à se traduire, autant j'ai beaucoup de mal à me juger. Souvent, comment je suis réveillé, je vais considérer comme catastrophique et honteux ce que j'ai écrit, ou bien parfois, plutôt bien. Et je suis incapable de me juger objectivement. Donc je m'en remets beaucoup à l'éditeur. Les derniers éditeurs avec lesquels j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler sont Jordi Blanc, Blanc, qui a publié L'Arbre de Miel. Oui. Georges Blanc, qui est un éditeur au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il ne laisse rien passer, et notamment dans la langue occitane, mais pas seulement. Et il sait mettre l'auteur qui propose du texte à publier en valeur, en le critiquant. Ce dont j'avais désespérément besoin, même si sur le moment c'est extrêmement désagréable, bien entendu. Mais je le remercie et je le remercierai lui aussi jamais assez. Et puis récemment, il y a Gérard Zucchetto, avec qui je travaille depuis très longtemps à la promotion du patrimoine occitan poétique et musical médiéval, au sein d'abord du Crème Troubard et puis actuellement de Troubavox, qui est une maison d'édition de musique et puis récemment de littérature occitane, médiévale et contemporaine, tournée vers la poésie. Et qui, lui, veut me publier, je dirais, abondamment, ambitieusement. Voilà. J'ai reçu, par ailleurs, des encouragements des revues, puisque Hoc m'a toujours soutenu, Gaï Sabé m'a toujours soutenu, Réclame, pendant quelque temps, m'a ouvert ses portes, puis a produit un article qui a fait que j'ai cessé de collaborer avec eux, puisque j'ai eu le malheur de faire remarquer qu'actuellement, ceux qui défendaient le plus et le mieux l'occitan étaient souvent des gens qui avaient fait des études, et que donc dans la masse sociale, ils représentaient une élite intellectuelle, et le mot élite a été interprété comme étant pour moi une identification possible au fascisme. Toujours est-il que actuellement, c'est avec Gérard Zucchetto que j'ai le plus de chantiers ouverts en poésie, non seulement comme écrivain, mais aussi comme directeur de collection. J'ai pour projet de publier deux recueils de Jaume Privat, qui sont accompagnés évidemment de peintures. La ligne éditoriale de Vous et Trouba, exactement, sont à la fois de la poésie occitane avec leur traduction en français et l'accompagnement de ces poésies par des travaux sur l'art plastique, les arts plastiques, des auteurs mêmes de ces poèmes. Il y a quelques écrivains occitans poètes qui sont aussi plasticiens. Il y en a, et tant mieux, et on voudrait par cette collection les promouvoir.
Alors c'est magnifique, hein, on ne peut pas le voir bien sûr à la radio, mais ces éditions Troubavox se présentent un petit peu dans le format des livres de
bande dessinée.
De bande dessinée, cartonnée, donc c'est très 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 agréable. et vraiment une mise en page qui est...
Effectuée par Céline Deschamps, qui est professionnelle de la mise en page.
Qui est un véritable régal. Ouais. Et puis, bien entendu, bilingue.
Hein, voilà.
Bilingue, donc... tout le monde peut,
me concerne.
Les auditeurs peuvent, voilà. Et c'est, je pense que c'est comme ça aussi que l'on va faire progresser quand même l'étude de la langue.
Hein. Il faudra peut-être que je vienne parler de ces ouvrages.
Oui, bien sûr, bien entendu, Franck. Oui. Parce que moi je crois qu'il y a beaucoup de Toulousains maintenant qui ont bien entendu cet atavisme, c'est-à-dire qui ont eu cette musique de la langue occitane, qu'on entend moins, de moins en moins, dans les rues de Toulouse. Hein.
Oui.
Attention, même l'accent se perd.
Même
l'accent se perd. Et donc, il y a là. Et là, grâce à ces livres, on va retrouver, avec le, par exemple des gens comme moi, j'arrive à retrouver la langue sans problème avec la traduction à côté. Voilà. Et j'arrive quand même à voir la richesse de la langue, la différence, la diversité qu'il peut y avoir hein, entre le français et l'occitan. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut concerner non pas les seuls occitanistes, mais au contraire l'ensemble de toutes les... Le public francophone. Et puis, comme tu dis, bien entendu, je pense à Aurélia Lassac, par exemple, hein, qui a publié Anglais occitan.
Voilà, c'est voilà, très habile, je la félicite. Un être capable, c'est ce qu'il faut faire.
Voilà. Elle est actuellement au Nicaragua, elle s'en va ensuite au Maroc, etc. Bon, c'est ça qu'il faut faire, porter le verbe occitan dans le monde.
Hein. Voilà.
Alors, si tu le veux bien, nous allons... Lire l'Arbre des Mêles. Pourquoi ? Parce que je pense que moi j'étais profondément ému par ce livre qui me semble être un livre important de poésie que j'ai lu dans les dernières années, parce que on retrouve l'héritage des troubadours. Hein, on n'a pas parlé de la littérature occitane, mais bon, la littérature occitane du XIe au XIIIe siècle, c'est quand même la littérature des troubadours, et qui est une littérature universelle et qui va changer quand même le sens du monde, je dirais, qui va changer le regard que l'on peut porter sur le monde, sur les rapports des hommes entre eux, sur les rapports de l'homme et de la femme. Et par l'amour courtois, l'érotique des troubadours dont tu as parlé avec un génie stupéfiant, alors que d'autres s'y étaient employés avant mais n'avaient jamais réussi à pénétrer autant au cœur de cette âme de l'érotique des troubadours. Et toi, tu publies L'Arbre des Mêles, où j'ai retrouvé vraiment quand même l'essence de tout ça, dans la modernité, bien entendu. Voilà. Hein. Et alors tu dis, par exemple, car sans amour ni repère, nous sommes tous exilés. Voilà. Et alors il y a des phrases comme ça, bon, on va les entendre dans les deux langues, qui me semblent être bouleversantes, surtout dans une époque où on s'aperçoit que cet amour peut... on peut s'en passer. Il y en a qui s'en passent. Voilà. Et moi, je n'aurais jamais pensé que ça puisse arriver, qu'on puisse arriver à une époque où, au contraire, je pensais que les époques, on allait progresser là. Et puis non, on s'aperçoit qu'effectivement, voilà. Et toi, dans l'arbre des mêles, hein, l'arbre à miel, vraiment, tu dis ça d'une façon qui me semble être bouleversante. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait un travail sur la langue qui... loin de la poésie minimaliste.
Oui.
Loin. Alors, il y a à la fois. Alors, il y a un côté très alchimique, hein, aussi.
Complètement.
La leçon très, de voilà. Longue, très alchimiste.
Bien entendu.
Quoi, bon.
Oui.
Qui m'a profondément aussi marqué. Parce que, bon, j'aime beaucoup ça. Et je pense qu'il faut revenir à ça aussi.
Parce que ça recentre l'esprit.
Les mythes, l'alchimie, etc. Si on n'a pas ça, on va perdre le sens de la vie, vraiment.
Hein. On va perdre la boule.
Voilà, oui.
Il faut le dire simplement.
Et donc, il y a ce langage qui nous emporte et qui nous emporte vers le meilleur. Tout en étant, comme tous les grands poètes, je crois, tout en étant très lucide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... on n'est pas, tu ne décris pas non plus un monde radieux où tout serait parfait, etc.
À l'image du Qatar, je suis optimiste quant à l'esprit et désespérément pessimiste quant à ce monde, à la façon de Houellebecq éventuellement.
Exactement.
Il y a quelques racines occitanes et quelques racines bretonnes, donc ils ne parlent spécifiquement français, ils s'en fichent éperdument de la France en tant que telle. Oui. Ils traversent la France comme on traverse une langue, pas plus. Le fait est que cet homme-là est désespérément pessimiste et que je partage en grande partie son pessimisme. Voilà.
Oui. Ce qu'on ressent aussi, mais avec cette illumination par l'esprit quand même. Hein, cette illumination par l'esprit.
Voilà.
Donc ça veut dire qu'il y a une lumière quelque part. Qui est possible. On veut, si on voulait, on pourrait. Voilà.
Oui, à plusieurs reprises, et jamais en le voulant délibérément, je l'ai perçu. Ouais. Simplement, c'est totalement intime, et c'est désespérément irrationnel. Ouais. Comment la faire partager autrement que par de la poésie?
Voilà. Mais écoute, vraiment, je n'aurais jamais pensé avoir autant de connivence à ce sujet-là. Alors, si tu le veux bien, on va lire l'Arbre de Mel. Alors, on va le lire... à deux voix. Toi, tu vas lire la version occitane, bien sûr, et moi, je vais ensuite reprendre dans la version française. On pourrait commencer tout simplement par le début, et on pourrait s'arrêter, par exemple, chapitre par chapitre. Hein, on s'arrête de 1 à 2, etc. Hein, allez. Allons-y.
La carrière torsudo, en un jour, une nuit, ses débruges desbestido, per deixar la luz cremante, en claure d'au, cado pas. Dis une hermas d'estiu, de silenci, de festo marialo, escutis il lauro teugno, tinda de lueni nei campanos. L'aigue spesso del flume, l'isà della speiros murmurio. Cum tacalla sapentendre, lo ferni della incertesos. Mas, perdut pel matì, desertà dell'espera amoruso, besioi l'usita finestro, come un estero d'ariero. E l'amica spartit. Già lo sai semenà per un trin de mar d'albe de somis, me quitan leu a ta grazio, di munescrin de suleso. Lo sulel sull'andan enflambado me de segni innocendo, brandando come un incendi, quieto come maigo de stagna. E lo srais de tapsel, e lo srai de bel sel, come os flumis, lo strins e lo sbens, tut so che mon cor cammino, s'intornerà cap a tu. Giusteu laz de l'amour, compartì ed escosse de che cridon, sempre cap a tu me biri, sempre cap a lume en bau.
Les ruelles tordues, en un jour, une nuit, se sont vidés de bruit, pour que la clarté brûlante emprisonne nos pas d'or, en un désert d'été, de silence et de fête mariale, j'écoute, au vent lumineux, l'écho lointain des clochers. L'eau pesante du fleuve, en caressant les pierres, murmure, elle compte à qui sait l'entendre, le frisson des certitudes. Mais, perdu au désert du matin, dans l'attente amoureuse, je vois briller ta fenêtre comme une dernière étoile. Et l'ami est parti. Je le sais déjà lointain, dans un train de mer, d'aube et de rêve, m'abandonnant à ta grâce, au seuil de la solitude, le soleil, sur l'allée embrasée, me dessine un sentier, dansant tout comme une flamme, paisible autant qu'un étang. Et les rayons du ciel et les fleuves, les trains comme les vents, tout ce qui mon cœur traverse s'en revient déjà vers toi. Sous les toits de l'amour partagé, et des corps qui s'appellent toujours vers toi, je me tourne, marchant droit dans la lumière.
Ruben Blau de la Serra clina un bel pic cap al temple, que din la mar si miraglio, com l'ocell din tus uels. L'hai mas giuntos pregant un semen de paraulo secretos s'escapo de la gran lono, urlant la suel del tiu cor. Tam s'en tornado di lueñ, din sai festos e sa cantos anticos, diu nus ben, subre bel serbi, davant l'ersa descrimanto. Saro te contro eu, amigo desvestido d'estasi, sui lucand in ta pregario, sui l'alen che t'attraverso.
Le vent bleu des montagnes a penché le vieux pin vers le temple, qui dans la mer se regarde, comme le ciel dans tes yeux. Les mains jointes, priant, un courant de paroles secrètes s'échappe de la lagune, hurlant l'azur de ton cœur. Dieu revient de si loin, dans ses fêtes et fastes antiques. Il vient comme un cerf sublime devant la houle écumante. Blottis-toi contre moi, ma sœur déshabillée d'extase. Je suis le chant des prières, le souffle qui te traverse.
An Abdelkrim Chelef. Lai jubentos region juspis, dansabon las paraulos, crimo, mut, granabo images, din la tar del siu cor, e lu ben de l'estiu, cremand in l'aur del ser, dava labo, dreit despenjals de l'arlas, cap a la taulo clinado. Las mas pleno de zirias amassabon lus gras de memento. Cal pot picade las mas se l'indimoro pascuno? E tas mas din las mas all'andavi mater a la grazio che senza amor, senza muiro, tutte sem pasche ziliaz.
A Abdelkrim Chelef. Jeune fille riante à l'ombre des pins, les paroles dansées. Crimaud, muet, dessiné dans la cire de son cœur. Et le vent de l'été, brûlant dans l'or du soir, descendait sur les pentes de l'Atlas vers cette table inclinée. Ses mains pleines d'exil rassemblaient chaque grain de mémoire. Qui pourrait donc applaudir lorsqu'il lui manque une main? Et tes mains dans mes mains, je ferai taire au souffle de la grâce, car sans amour ni repère, nous sommes tous exilés. Faire une petite pause là-dessus. Donc on trouve là ce vers, hein, mais car sans amour ni repère, nous sommes tous exilés, sans amour, sans amour. Todos hemos sido exiliados. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. L'exil, c'est ça, certainement. Hein? On oui. Cherche. Là, on en parle beaucoup. Mais ce n'est peut-être rien d'autre que ça. On est exilé à partir du moment où on perd l'amour.
Hein? On perd l'amour, on perd les liens.
Oui.
Ou on perd le sens. Le sens peut être objectif ou subjectif, mais qu'importe, s'il y a du sens, l'homme va. Sans le sens, il erre. Et l'amour donne sens. Qu'importe qu'il soit illusoire, il faut courir le chemin. Et le chemin est long, quelquefois. Sans amour, c'est plus un chemin, c'est une tombe ouverte. Le texte est dédié à un peintre qui se fait appeler Crimaud, c'est Abdelkrim Chelef. C'est un habitué des réunions de la revue Hoc. Il est d'origine berbère, il parle arabe, berbère, il écrit l'arabe, le berbère. Il peint des lettres, il peint toutes sortes de choses. C'est un grand créateur. Il a fait l'une de mes couvertures, la Credo, l'appel. Le Coran étant un appel, j'avais voulu rendre hommage à cette notion d'appel qui, de l'inertie, met l'homme en mouvement. Sans adhérer à une foi particulière, je ne peux pas dire que je suis athée. Je suis quelque part entre le gnostique et l'agnostique. Et j'oscille à la façon de Fernando Pessoa selon les allées et venues du vent marin, selon les allées et venues du soleil et de la pluie, sans savoir où vraiment me poser. Donc j'écris des poèmes athées, des poèmes désespérément remplis de foi, des poèmes tout pleins d'espérance en l'amour, des poèmes désespérés d'amour, et peu importe. L'important est, quand on écrit, d'être sincère. Crimon était assis à côté de moi, il créait des œuvres à côté de moi pendant une université occitane d'été à Nîmes. Il y avait des pins sur la cour de l'endroit où nous étions en train de travailler côte à côte en silence. Nous avions longuement parlé d'abord, et lorsque le silence s'est fait, le dessin s'est créé, la poésie est venue côte à côte avec son dessin, et c'était un grand moment de communion. On était frères. Hein. Il n'y avait pas d'autre explication à donner.
Et cette complicité d'ailleurs entre le plasticien et le poète est quand même assez fréquente et parfaitement, comment dire, intelligible, hein.
Oui.
Possible aussi avec le musicien, hein,
Totalement.
voilà.
Nous essayons
Mais
d'habiller de visible l'invisible, ou de parole l'indicible.
Est-ce que tu es d'accord avec Pessoa quand il dit, par exemple, que certes il reconnaît ça, mais il dit, malgré tout, c'est le langage qui a la suprématie.
Je suis perplexe.
Oui.
De ce point de vue, je suis probablement beaucoup plus néoplatonicien que lui en général. Et le langage n'est que le réceptacle de ce qui a la suprématie et qui n'a pas de nom. Peut-être quelque chose comme le chinois l'appellerait le Tao, qui lui échapperait dès lors qu'il le nommerait, bien entendu.
C'est à la fois le contenu et le contenant. Hein?
Totalement.
Ouais. On va poursuivre, si tu veux bien, Franck, donc sur recueil, donc comme tu veux, où on peut aller un peu plus loin ou continuer dans le.
Il
Alors.
y a deux textes qui
Oui.
sont à la fois des poèmes, mais aussi ce que l'on pourrait appeler de manière plus classique des fables,
Ah oui, voilà, oui, tout à fait. Alors, je
et
l'ai
qui peut-être
noté.
méritent d'être lus à
Oui,
l'antenne
oui.
parce qu'ils
Alors,
racontent une histoire.
oui. Page 30, tu vas trouver ça, je pense. C'est un peu Salomon. Cette allusion.
Cosunale, bon. Al solenne chiglia de spilars d'aramblus sulla serro, che già tu cabra est nimbus per falla la lem de Diu, bastissio già per tu la tour d'aur e d'aur blau, cuno gaito i beliabotas bingudos e nuei tencos bulittats. Tre l'exilide del tum platupit qu'il saceron lus paires, tel lusissioi de lume freule contro il bufà de tempesto, qui rusiga boccare mai pes d'escamis senza miro, di nos umbros assassinos sul dal de sas cruseltats, de musuels alambrats da balabon sen fila sersados duceans cus mugunits, che dansabon en miracles, di lagaite spantats es profetos de set, Cam pregabon las parpellos espetados de stelos e de desert. Lus ductus de la fe e lus preires d'urgul mensacabon de lai flambos espessidos per la spau de Diu entendre. Mai cremabon lui cris d'amor folle de sper sens espero, mai bandaben tumum cor per en la mars e misteris. Similan senza zi che t'appari d'amor, la trevanso s'accabara leu su voles. Già l'ai portos del senacle restrunisun del sel fin al cor della terra effimero. Già las vergios estelados te paron sas mas lusentos. Peque tutta si basa la pusca iniciale o senturno, ben in beurra la grasalo della sang del di uberai. Che ti bal dare in là tutto queste smarrade in un secle che s'appas remai d'amor, che l'amarganzo del buit. Dai socura jamai l'esperdu il curunat che s'innorro, se nego de se creiresse, l'un d'eterno t'accubrado per te fundre munsi con sulla siu finale prumeso. Beu lu gioi inagutable che per sempre ti filtreri. Pun desglai gelibrate entre dus infinits se scumplido la bide in fioc de palumbos, flur de sang di la mia pallo. Ma desglai in sglai, de dolore in sulas, in suleso, e zieu tu sten che cercheres, giù lai plagos del semblà. Chi to lai l'espaben che te ten a raccar sur narudo, chi to leu la seguranzo de te creire mai chistuno, unzo milo clartaz, claro sbergio de fan. Ambusciat l'arculan dell'alestelo, ma il lundagno sulla frau. Dono freu l'hai mandat per t'ascendere in arcula d'estelos, che te raio finza ie, entre terres el discut.
À l'érection sacrée des piliers d'airain pur, sur la cime où se heurtaient les nuages, à frémir au vent divin, je construisais pour toi la tour d'air et d'or bleu, d'où le garde guettait déjà tes venues en nocturne volupté. Dès l'exil, dans le gouffre ébahi où l'on jeta les pères, je t'éclairai faiblement sous le souffle des tempêtes, qui rongeait le visage et les pieds des chemins sans repère, ceux des ombres assassines sur le tranchant des supplices. De mes yeux incendiés descendaient à jamais les grands flots d'océans cosmogoniques qui dansaient, miraculeux, regards effarés des prophètes de soif, en prière, les paupières éclatées d'étoiles et de déserts. Les docteurs de la foi et les prêtres d'orgueil me jetaient dans les flammes alourdies par la peur d'entendre Dieu. Puis ils brûlaient mon cri d'amour fou et d'espoir sans attente, mieux brûlaient en toi mon cœur par-delà mers et mystères. 5000 ans, sans haïr, que d'amour je te guide. L'errance prend fin si tu le désires. Déjà, les portes du temple retentissent du ciel jusqu'au cœur de la terre éphémère. Déjà, les vierges célestes te tendent leurs mains d'étoiles. Puisque tout, ici-bas, aux poussières antiques retourne, viens boire à la sainte coupe le sang de notre vrai Dieu. Que te vaut désormais toute quête égarée en ce siècle qui ne sait plus rien d'amour que l'amour du vide? Laisse à jamais courir les perdus couronnés qui s'ignorent. Ils se noient de se croire être. L'onde éternelle t'emporte pour te fondre à mon sein, consolation ultime et promise. Bois la joie inextinguible que j'ai distillée pour toi. Pont d'effroi, verglacé entre deux infinis, s'accomplit la vie, bouquet de colombes, fleur de sang dans la nuit pâle, mais d'effroi en effroi, de douleur en plaisir, en détresse, c'est moi, toujours, que tu cherches, sous la plaie des apparences. Quitte là la terreur qui t'attache à la chair des horreurs. Quitte vite l'assurance de te croire plus qu'instant. 11 000 clartés, fine vierge d'ardeur, ont versé l'arc-en-ciel après l'étoile, la plus lointaine en ce gouffre. Frêle femme, j'en vois sur ta cendre un arc-en-ciel d'étoiles qui te trace jusqu'à moi, entre terre et ciel tissé. Voilà, très beau texte, hein, vraiment. Alors là, fait référence, bien sûr, il y a le temple de Salomon, les deux colonnes d'airain. Il y a donc tout ce côté, et puis alors il y a ce côté aussi par le christique aussi. Hein,
christique. D'un christianisme, on s'en doute assez peu inquisitorial. Ah,
oui, voilà. Il y a celui de l'origine. Hein.
Peut-être. Oui. En bon, tout cas, c'est ce que prétendaient les cathares. Oui,
et qui est, là aussi, où on retrouve l'amour dans ce que les Grecs appelaient l'agapé, le caritas, hein, voilà, qui n'est pas que l'éros.
Et qui le contient.
Oui, et qui le, voilà.
C'est-à-dire que l'éros n'est pas rejeté en dehors, mais placé en son centre. Ouais. Et il irradie à partir de ce centre jusqu'à l'agapé. Ouais. C'est la leçon de Diotime que vantait Paul Valéry. Ouais. Et si je suis platonicienne, l'amour, c'est par Diotime. Et c'est elle, la maîtresse, pas Platon. Bien entendu.
Alors, on va peut-être revenir sur ce que tu parles de l'œuvre. Alors, l'œuvre alchimique, le grand œuvre, etc.
C'est celle-là.
Alors, si tu veux, on va revenir un petit peu en arrière, là, en passant à la page 16. On va trouver ça. Page 16. De ce recueil, donc l'arbre de miel, où ce qui m'a semblé...
Il y a plusieurs temps.
Oui, ce qui m'a semblé intéressant, c'est, on a parlé tout à l'heure de ce côté alchimique, hein, la poésie alchimique, bien entendu.
Et Sophiane, mais... comme pour l'ajouter, enfin.
Oui. Et alors, on peut, à partir de cette description de l'œuvre, du grand œuvre, etc. Il y a aussi ce qui est intéressant, c'est comment tu en parles dans les deux langues. Hein. Mmh. On va trouver peut-être en occitan des nuances et que l'on n'a pas en français.
C'est pareil, Schinelli.
Voilà.
C'est pareil, Schinelli, et les deux œuvres se parlent et se répondent.
Ouais.
Elles palpent chacune de leur côté une même... Ouais. Subtilité, peut-être une même vérité, je suis toujours très réservé, je n'affirme rien, je crois, et quand je crois, je ne sais pas.
Alors on va le lire si tu veux,
oui.
Si tu veux bien.
Daiso sempre n'esta seguro, di l'umbro che già ta camino, ta tero rebatcado sel, che se miraios in la mieuno. Ai tal sabes che mi fazen, che l'obro ben pasque dai so, che tutto causo nestirado, beses in che l'obro es miracle. Bule ubra tes insulel, che fa gria munze balados, te dai sa ubra tes la luno, che fa ferni mars, munze fumis. L'auro en sum bel ai so portet, e lai seros unu irigerun, Daiso ben, tut biais et tut be, tutto forso ne trais a forso. Aiso, la sentu che te spero, per te purgi tut estrambord. Lu foc ne debentero e la tero t'exilio da quel foc abrandant. Tiro ta tero del foc, so fi bal mai che so fals, am prudensio. E mai sabieso. Tal cum tu can caminos, ai soba de terre in sel, per s'inturna cap a terro, da chi estan, prensa forso, dell'amun et de Laval. Ombre en caro, émail de lungo, le lune de l'uns a metu. D'abant qui t'en fugira, los tumples et sas ténèbres. Aisos forso de las forzos, en amont de tout Sophie, al cross de son majespèce. L'univers sans cesse et biro vers tout aiso, comme as bist. Saiso, dar en la nusra glorio, n'espramu que las tres sabiesos, la tieuno, la mieuno et la sieuno, que l'obre gran n'estio cumplit.
De cela, sois toujours certaine. Dans le grand œuvre où tu chemines, la terre est le reflet du ciel qui se regarde dans la mienne. Ainsi, tu sais, en chemin, que l'œuvre n'est que cela, dont toute chose est tirée. De là provient tout miracle. Ton soleil sait vouloir œuvrer. Il fait vivre monts et vallées. Ta lune te laisser œuvrer. Elle fait frémir mer, source, fleuve. Le vent l'a portée dans son voile et les montagnes l'ont nourrie. De cela vient tout procédé. Et tout bien, va ton chemin. Toute force en tire sa force. Et cela, en ton sein, t'espère pour t'accorder bel enthousiasme. Le feu en devient terre, et la terre t'exile de ce feu dévorant. Tire la terre du feu, subtil vaut bien mieux qu'absurde, avec prudence et sagesse, comme toi quand tu chemines. Cela va de terre en ciel, pour s'en revenir sur terre. Cela tient donc sa puissance de l'en haut et de l'en bas. Tiens-toi longuement à l'œuvre. La lumière des lumières ne t'abandonnera pas, et devant toi s'enfuiront les gouffres et leurs ténèbres. Cela est force des forces, plus haut que le plus subtil, plus profond que le plus lourd. L'univers entier oriente, comme tu l'as vu, cela. Notre gloire est en cela, en raison des trois sagesses, tienne, mienne et surtout sienne, s'accomplissent le grand œuvre. Alors, sienne étant évidemment avec un S majuscule. Hein. Alors, il y a, j'avais remarqué, moi, alors, en occitan, pour le grand œuvre, il y a, tu parles de l'œuvre, l'œuvre grand. Oui. L'obra unuene, l'œuvre unique, hein, et l'obrage. Voilà. Tout ça traduit en français par l'œuvre ou le grand œuvre.
Oui. Hein. Oui.
Donc il y a là une subtilité, un petit peu comme bon, on parlait des Grecs qui ont plusieurs mots pour dire l'amour, etc. Ou, oui. Ou les Arabes qui ont je ne sais pas combien de mots pour dire cheval, par exemple. Mm-hmm. Hein. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une richesse de la langue qui est. Et alors, toi, tu t'es servi un peu de cette richesse. Et après, en français, tu es tombé sur.
Voilà.
Hein?
Ouais. J'ai utilisé d'autres images qui répondaient à celle-là.
Oui. Oui. Mm. Et c'est là qu'on voit vraiment que c'est une recréation.
Probablement. Hein? Voilà. Ouais. Une réincarnation du même esprit dans deux corps différents.
Oui. Oui.
Je le définirai ainsi. Ce ne sont pas à proprement parler des traductions. Mmh. Et à proprement parler, je ne sais sans doute pas mieux me traduire que Félix Castan.
Ouais. Mais tu le fais.
Mais je propose deux versions de même texte.
Oui, oui.
C'est-à-dire, on devrait plutôt dire, deux versions textuelles d'un même esprit, d'une même perception. Je suis ce qu'on appelle en analyse jungienne un intuitif. Je pense par image, par film. Ça me vient, Dieu seul sait d'où, Dieu ou diable, que sais-je. Je ne suis pas allé vérifier. J'espère que c'est plutôt bienveillant, mais pas toujours. La colère gronde parfois, on pourra parler plus tard de pourquoi. Le fait est que ces images telles que je les reçois, je les habille alors de mots. C'est peut-être pour ça que je serai plus prudent que Pessoa, ne prétendant pas comme lui que le langage est premier. Peut-être l'est-il parfois, quelquefois. C'est rarement alors que je touche à la mystique. Rarement. Il faut d'abord que j'aie l'image. Quelquefois, l'image me vient, j'étais en train de m'endormir. Je me lève brutalement pour vite aller noter ce que j'ai perçu. Et ensuite, le texte, c'est vrai, se déroule. Comme de l'eau que je lâche en haut de la montagne et qui court jusqu'à la mer. Je n'ai pas choisi qu'elle aille à la mer, mais où voulez-vous qu'elle aille? Et donc, elle a un cours qui est sien propre. Ici, j'étais quand même l'héritier humble et effacé d'un certain Hermès Trismégiste, que certains poètes d'un genre un peu particulier connaissent certainement. Voilà. Et dont j'ai voulu me refaire le réceptacle. Suite à quoi, le corpus du recueil prend un sens qu'il n'aurait peut-être pas eu si je n'y avais pas fait longuement référence. Parce que j'aurais certainement raconté les mêmes choses, mais on aurait pu passer à côté de certains repères. Et je me devais quelque part de me mettre humblement au service de la tradition et de dire « je ne suis qu'un passeur ». L'idée, je ne la conçois pas. Elle se conçoit en moi, comme elle pourrait tout aussi bien se concevoir en quelque autre. Et je ne suis que preneur de notes, un scribe égyptien. Les Égyptiens écrivaient en copte. Je fais comme je peux, je parle avec les pyramides d'Occitanie en copte occitan.
Alors, Hermès Trismégiste, on le trouve, par exemple, tu parles du bas et du haut qui est pareil. Hein, la table d'émeraude.
C'est la table d'émeraude voilà. Dont elle naît ici.
On le retrouve
reflété
complètement. Dans le texte, hein, on le retrouve,
tout, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Voilà.
Fait le dedans comme le dehors. Oui. On le retrouve aussi dans certaines logions attribuées à Jésus, dans l'évangile prétendu apocryphe, en tout cas, de saint Thomas, qui est un manuscrit copte, tiens, nous y revenons, nous sommes en Haute-Égypte, avec des chrétiens qui actuellement se font un peu brûler, mais chacun son tour. Alors là, ce n'est que des échanges de politesse. Les confessions ne sont pas ce qui m'intéresse le plus, j'aime plutôt la foi. Le fait est que les messages reçus par cette tradition et par Jabir, Al-Jabirim Nayyam, qui est le père de tous les alchimistes occidentaux, c'est un arabe, qui recevait la leçon des Grecs, en tout cas des textes grecs, cette leçon, je m'en fais humblement le porteur. J'ai dit tout à l'heure qu'avec Gérard Souquetto, nous travaillons à une lourde édition de nombreux recueils. Une polarité sera sociale et très ancrée dans le siècle, extrêmement pessimiste, et inquiète et alarmante. Une autre sera portée certainement vers la contemplation et sera classiquement mystique, et un troisième volume, qui est encore en chantier, en œuvre, sera spécifiquement alchimique. J'espère pouvoir mener à bien à ses côtés l'ensemble de ces trois éditions qui seront certainement décisives pour l'idée qu'on se fait de ce que je peux produire et écrire. On saura enfin exactement qu'est-ce que je porte avec moi.
Bien, eh bien, nous nous en ferons l'écho, en tout cas on va te suivre dans cette démarche. Hein. Je crois qu'il va falloir maintenant rendre l'antenne. J'aurais voulu parler d'une autre fable où tu fais intervenir Jésus-Christ et Saint-Jean,
oui.
Mais on va réserver ça pour une prochaine fois. Alors j'espère que tu nous feras quand même le plaisir de revenir, Franck.
Très volontiers, pas attendre aussi des années. Souvent que je pourrais,
comme,
mais c'est un
comme
peu
tu m'as fait attendre. Là.
Voilà.
Alors on rappelle l'arbre de miel, l'arbre à miel, Ventéral. Donc aux éditions Ventéral. Et puis alors, ces deux derniers livres dont nous parlerons plus tard, c'est dans la collection Bots des Troubards, Franck Bardou, Feu dans les yeux, J'ai soif de braise, hein, et également Là où tu attendais le moins, où tu l'attendais le moins, pardon, Là où tu l'attendais le moins, bon, nous en parlerons, alors c'est des éditions magnifiques, hein. Voilà, poésie occitane, magnifiquement illustrée et en version bilingue, donc accessible à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Voilà.
Merci beaucoup, Franck. C'était un grand plaisir de t'avoir. Donc, Franck Bardou, Je vous invite donc à lire ces textes. Franck Bordeaux, qui est membre de l'Académie des Jeux Floraux, nous n'en avons pas parlé, et également de l'Académie Occitane. Ainsi s'achèvent les poètes. Donc, nous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à Digest.
Qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chante le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, ils savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.